essentiel. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous allons prier tout d'abord. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci pour ta parole qui nous est encore donnée aujourd'hui. Et nous voulons te demander, Seigneur, de faire taire toutes les pensées qui peuvent venir nous gêner pendant que nous parlerons de toi. Sois avec nous, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Alors, avez-vous remarqué que notre société, notre époque, valorise le non, N-O-N? On nous convainc que de dire non, c'est faire preuve d'intelligence. Dire non, c'est faire preuve de puissance, d'autonomie, d'indépendance. Dire non, être méfiant, rejeter toute proposition, toute pensée, réfuter, critiquer systématiquement, eh bien tout cela passe pour des vertus. De ce fait, dans la pensée commune, seul le niais, le frêle, le faible dit oui. Dire oui serait-il une faiblesse, une sottise que de dire oui? Qu'en dit la Bible? Et je vous propose à travers différentes rencontres, celle de Noé, d'Abraham, de Moïse dans l'Ancien Testament, de Marie, de Pierre, de Jésus dans le Nouveau Testament, de découvrir la valeur du oui. Tout d'abord, Noé. Nous connaissons tous l'histoire de Noé et de l'arche, bien entendu. Allons y voir d'un peu plus près. Déjà dans Genèse 6. Alors, Genèse 6. Les versets 5 et 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ensuite, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors Dieu dit à Noé, au verset 12 de ce même chapitre, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire sur la terre. Et s'ensuit, vous connaissez ce texte, à partir du verset 14, il lui dit, fais-toi une arche de bois et de gopher. Et les versets suivants, eh bien, Dieu donne les instructions précises pour la construction de l'arche. Il donne le plan, les dimensions et même les matériaux qu'il faut utiliser. Et dans ce même chapitre, au verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta ce que Dieu avait ordonné. Pourtant, soyons quelque peu réalistes. Noé n'habitait pas au bord de la mer. Il était dans les terres. Or, peut-être y avait-il une rivière, des marécages. Certainement pas assez d'eau pour y faire voguer un si grand bateau. Bateau qui, d'ailleurs, ne ressemblait à aucun autre. Alors, Noé aurait pu dire à Dieu, tu es sérieux? Construire un bateau ici? Et puis ton bateau, il est énorme. Je n'y arriverai jamais. Je vais être la risée de tout le monde. Vraiment, Seigneur, tu n'as pas une autre idée? Toutes ces remarques auraient été légitimes. Mais Noé dit oui au plan de Dieu. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Cette construction était un travail de longue haleine. Et Noé n'était plus très jeune. Dans la Genèse 7, verset 6, il nous est dit, Noé avait 600 ans lorsque le déluge arriva sur terre. Selon les exégètes, nous savons que Noé a mis 70 ans pour construire l'arche avec ses trois fils. Vous imaginez. Pendant 70 ans, ses voisins venaient régulièrement se moquer de lui, forcément. Et l'affaire avait dû faire grand bruit. Et on venait de loin pour voir où en était ce fou de Noé avec la construction de cette arche. On peut imaginer la peine de Noé, la fatigue émotionnelle de ces moqueries ont dû entraîner pendant si longtemps. Mais Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a construit l'arche en suivant avec fidélité et persévérance la parole de Dieu à travers une foi immuable. Une foi qui ne se contente pas de mots, une foi agissante. Noé, en obéissant à Dieu, parce qu'il a dit oui, rentre totalement dans le plan de Dieu et va devenir le sauveur des élus. Pour ceux de sa génération, désobéissants, violents à l'extrême, il est un témoin, un prophète, mais il ne sera pas cru. Dans 1 Pierre 3, versets 20 à 22, il nous est dit « Ils étaient incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau, 8, Noé et sa femme, ses 3 enfants, ses 3 belles-filles. Cette eau était une préfiguration du baptême qui n'est pas une purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Dans la suite de notre récit, en Genèse 7, nous voyons l'entrée dans l'arche de tous les animaux de la famille de Noé. Et de la famille de Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. La porte est scellée, totalement fermée, pour tous ceux de l'extérieur. Et cette porte scellée est à mettre en parallèle avec celle du royaume de Dieu. Seuls les élus pourront entrer dans le royaume de Dieu. Noé devient ainsi le deuxième ancêtre de l'humanité après Adam. D'ailleurs, Dieu donne le même ordre à Noé que celui donné à Adam et Ève. Nous voyons dans la Genèse, le verset au chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et nous voyons dans Genèse 9 que Dieu demandera la même chose à Noé. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre, pour tout ce que, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Puis Dieu fait alliance avec Noé et par extension avec toute l'humanité en posant son arc dans la nuit. L'arc-en-ciel, c'est toujours nous rappeler de l'alliance de Dieu fait avec les hommes. Vous vous rendez compte de la portée du oui de Noé? Allons un petit peu plus loin dans la Bible, à la rencontre d'Abraham. Dans Genèse 12, les versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » L'Éternel donne un ordre à Abraham, « Va-t'en de ce pays. » Mais il accompagne cet ordre d'une promesse. « Je ferai de toi une grande nation. » Et que fit Abraham ? Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Ici, nous voyons que, comme Noé, Abraham ne discute pas l'ordre de Dieu. Pourtant, c'est un oui difficile. C'est le oui de la séparation. Abraham était le fils premier-né de Térakh. Il avait toute autorité sur la maison de son père, qui était beaucoup plus occupé par l'idolâtrie. Ur en Chaldée est une terre fertile, les récoltes étaient bonnes, les troupeaux nombreux, et Abraham jouissait d'une bonne notoriété. Dieu lui demande de quitter ce que l'on appelle aujourd'hui sa zone de confort, pour aller dans le pays que je te montrerai. Abraham ne sait même pas où, le pays n'est pas nommé. Il lui a fallu une forte détermination pour dire oui à Dieu et à la fois rompre son attachement à son père et quitter ce lieu prospère. Dans Hébreux 11, verset 8, il nous est dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il allait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Le « oui » d'Abraham, ici, c'est sortir du monde de l'idolâtrie et mener une vie consacrée à Dieu, tout en vivant dans le monde. C'est encore ce qui nous est demandé aujourd'hui. Dans Jean 15, verset 19, Jésus dit « Vous n'êtes pas de ce monde, je vous ai choisi du milieu du monde. » Et de même qu'Abraham est mis à part, nous aussi, nous sommes mis à part. Un peu plus loin dans la vie d'Abraham, Dieu va lui demander quelque chose d'incroyable. Il va mettre à l'épreuve la foi, pourtant si grande, d'Abraham. Dans Genèse 22, les versets 1 à 3, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et un peu plus loin, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham a réussi à surmonter ce test incompréhensible grâce à sa confiance absolue en Dieu. Il a démontré la maturité de sa foi, c'est-à-dire la capacité de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Par cette obéissance, il reconnaissait que même les bénédictions qui sont offertes par Dieu, eh bien, lui appartiennent toujours. Job, en son temps, beaucoup plus tard, dira « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Par son obéissance à Dieu, Abraham met déjà en pratique le commandement souverain de Dieu donné au peuple par Moïse dans Deutéronome 6, verset 5. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et voilà la réponse de Dieu à l'acte de foi d'Abraham. Verset 15 de Genèse 22. « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Voyez-vous la portée du « oui » d'Abraham ? Aujourd'hui, nous sommes la postérité d'Abraham, aussi nombreuse que les étoiles, que le sable au bord de mer. Avançons encore dans nos rencontres et allons voir Moïse. Nous connaissons l'histoire. Fils d'Hébreu de la maison de Lévi, il sera élevé par la sœur de Pharaon à la cour de Pharaon. Moïse fuit l'Égypte après avoir tué un garde assez violent et sa fuite s'arrête à Madian, où il se mariera d'ailleurs avec la fille de Jéthro, sacrificateur de l'Éternel. Et c'est là que pendant 40 ans au service de son beau-père, il va apprendre à connaître Dieu. Il va apprendre la soumission à Dieu et la maîtrise de soi. Lui qui avait un tempérament très vif, face à l'injustice, il réagit sans réflexion. C'est ce qui l'a amené à tuer cet Égyptien. Et dès son arrivée au puits de Madian, il met violemment en déroute des bergers bien mal intentionnés. Ainsi, loin de l'Égypte, Dieu prépare son serviteur. Il va le préparer pour libérer le peuple d'Israël. Tout d'abord, il le rend humble. De prince d'Égypte, il devient berger. Et Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson ardent. Exode 3, verset 2, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et ne se consumait pas. » Au verset 7 de ce même chapitre, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Un peu plus loin, au verset 10, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Et s'ensuit dans les deux chapitres suivants, le chapitre 3 et le chapitre 4, un dialogue avec Dieu dans lequel Moïse met en avant ses limites personnelles, sa crainte de l'incrédulité du peuple, son manque d'éloquence. Et il va même demander à Dieu de choisir quelqu'un d'autre. En fait, Moïse est effrayé par cette perspective. Dieu connaît Moïse et il promet de l'aider. Au verset 12, Dieu dit « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dieu promet aussi son aide divine qui lui permettra de faire tous les prodiges qu'il a fait auprès de Pharaon et pour le conforter, il lui donne aussi une aide humaine en la personne de son frère Aaron. En fait, durant tout l'échange entre Dieu et Moïse, Dieu prépare Moïse à sa mission. Et Moïse, quoique se croyant indigne, va dire oui à Dieu. Nous savons, nous connaissons l'histoire de Moïse. Il marchera dans la voie que Dieu a voulu pour lui. Et la vie de Moïse est époustouflante. Même Hollywood en a fait un péplum, pour dire. Il est sauvé de l'extermination en étant déposé dans le Nil. Il est élevé à la cour de Pharaon. Dieu lui-même l'appelle pour libérer le peuple d'Israël. Il va affronter les plus grands magiciens d'Égypte. La mer va s'ouvrir devant lui. Il reçoit de Dieu les tables de la loi. Il construit le tabernacle et pendant 40 ans, il va conduire le peuple dans le désert et l'initier à la vie avec Dieu. Et Dieu accompagnera Moïse jusqu'à sa mort. Nous lisons dans Deutéronome 31. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Magnifique, n'est-ce pas? Et nous lisons un peu plus loin les versets 10 à 12. Il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous ces prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Moïse, l'ami de Dieu, sera encore présent lors de la transfiguration avec Jésus. Nous le lisons dans Matthieu 17, « Jésus fut transfiguré devant eux, Moïse et Élie leur apparurent en s'entretenant avec lui. » Voyez-vous, quelle aventure que la vie de Moïse, même si tout au début, le « lui » était quelque peu hésitant. Allons dans le Nouveau Testament et à la rencontre de Marie. Nous lisons dans Luc 1, petit passage un petit peu long, les versets 26 à 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Un ange vient annoncer à Marie qu'elle va être enceinte. Et comme à chaque fois, Dieu révèle son plan. Et quand même, malgré la description magnifique que sera ce fils, Marie reste pragmatique. Elle est très réaliste. Comment cela se fera, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui explique. Et pour appuyer cette parole extraordinaire, il parle de la grossesse inespérée d'Élisabeth. Et il ponctue son discours par « Rien n'est impossible de la part de Dieu ». Et la réponse de Marie est un oui remarquable. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Pourtant, cette annonce des plus inattendues peut inquiéter sérieusement Marie. À cette époque, les fiançailles duraient environ un an, temps estimé suffisant pour apprendre à se connaître. Marie était fiancée à Joseph. Et à l'époque, il n'était absolument pas question d'avoir des relations avant le mariage. Nous lisons dans Deutéronome 22-23 ce qu'il en est. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La sentence était sévère. Une fois la grossesse visible, comment aurait pu dire « Mais non, moi je suis toujours vierge ». Qui la croirait? Joseph aurait pu la répudier. Et selon la loi, voyez-vous, elle devait être lapidée. Mais Marie n'a pas hésité. Elle dit oui à Dieu, faisant preuve d'une confiance absolue à Dieu. Elle n'élève aucune objection malgré les risques encourus. Marie, choisie par Dieu, a humblement et spontanément dit oui à Dieu et est entrée aussi pleinement dans le plan de Dieu en glorifiant Dieu. Nous le voyons dans Luc 1, versets 46 à 48. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Le chemin ne sera pas facile pour Marie. Du départ de Nazareth à Dodane étant enceinte jusqu'à Bethléem, ensuite la fuite en Égypte, elle suivra aussi Jésus pendant son ministère, jusqu'à le voir crucifié. Il y a eu des temps douloureux pour Marie. Mais la grâce donnée lors de l'annonce l'a accompagnée. Quel oui courageux, plein d'abnégation et de confiance que le oui de Marie. Allons un petit peu plus loin encore, avançons dans notre quête, jusqu'au jour où Jésus choisit ses disciples et en particulier Pierre. Déjà, beaucoup de personnes suivent Jésus depuis sa rencontre avec Jean-Baptiste. Il arrive sur les rives du lac de Génézareth et pour mieux se faire entendre, monte dans la barque de Simon et parle à la foule. Et ce choix de la barque de Simon n'est pas anodin. Nous lisons dans Jean. Dans Jean 1, les versets 35 à 42, le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Et un peu plus loin, on est toujours dans Luc. Donc un peu plus avant, donc. Luc 5, versets 4 à 11. Donc Jésus est près du lac de Génézareth. Il est rentré dans la barque de Simon, mais une barque choisie. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque pour venir les aider. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Et ils suivirent Jésus. Dans ce récit, l'attention est surtout portée sur Pierre. Simon, comme tout pêcheur expérimenté, savait qu'une prise aurait été inutile. Il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Pourquoi ? Dans la matinée. Mais il était impressionné par Jésus et il obéit à l'ordre de Jésus. Et face à cette pêche extraordinaire, il a la pleine révélation du Seigneur. Il est terrassé par un profond sentiment de crainte et d'indignité face à celui qui déploie une telle puissance divine. Et Jésus lui dit, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et nous voyons que là, Simon et les autres laissent tout et le suivent. Par celui sans concession, nous voyons que la seule réponse convenable au royaume de Dieu est l'obéissance immédiate à la vocation. C'est le oui ferme, sans aucune hésitation. Dans Jean 1, verset 42, lors de la première rencontre de Jésus, nous l'avons lu, Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et dans Matthieu 16, 18, Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Quel renversement de situation. De simple pécheur qu'il était, Pierre devient le fondateur de l'église. Il a dit oui à Jésus, un oui sans aucune concession. Et pour finir, je vous propose de parler du oui le plus extraordinaire qui soit, le oui de Jésus. Un oui qui se dit en deux temps. Tout d'abord, auprès du Père. Jésus adhère pleinement au plan de Dieu pour sauver l'humanité entière par le sacrifice universel de l'agneau pur sans tache. Jésus sait. Et il dit oui au Père. Un oui prononcé dans sa divinité. Il accepte l'inimaginable, quitter la gloire et incarner l'humilité. Nous voyons dans Jean 1, 4 ces magnifiques versets. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et un peu plus loin au verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ainsi, le Fils de Dieu se fait chair. Il se dépouille de toute gloire, de toute magnificence. C'est le premier temps du oui de Jésus. Le second temps du oui de Jésus, c'est celui prononcé dans le jardin de Gethsémané. C'est le oui prononcé dans toute son humanité. Il sait ce qui va advenir. Il est homme et il a peur. Nous voyons dans Marc 14, 33, 34, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Cette parole révèle l'angoisse profonde dans son humanité. Il s'éloigne pour prier. Matthieu 26, 38, il se jeta sur la face et prit ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Après une poignante agonie spirituelle, Jésus dit oui à son Père. Il se met librement à sa disposition. Jésus accepte, lui l'agneau sans tache, d'être fait péché et exposé comme tel au jugement de Dieu. Il va goûter dans toute son amertume la mort, le salaire du péché, afin que ceux qui se confient en lui ne la connaissent pas. Par la force du oui de Jésus, nous sommes sauvés, car il a accepté la mort sur la croix, mort ignoble, mort infâme, lui le Fils de Dieu, pour que nous, nous ne la connaissions pas. Alors, à travers ces quelques rencontres, nous voyons l'impact du oui, impact dans la vie et pour la vie de ces personnes, mais nous voyons bien que cet impact résonne encore dans notre vie aujourd'hui. Revenons à notre première question. Est-ce faiblesse que de dire oui? Suite à cette belle rencontre, nous voyons qu'il faut de la force pour consentir. Il faut du courage pour dire oui. Dire oui au risque, oui à l'aventure, oui à l'impensable. Quelle vigueur dans la confiance du oui donné par Noé, Abraham, Moïse, Marie, Pierre, Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Il veut nous associer à ses projets. Non pas à cause de ce que nous sommes, mais parce qu'il est capable de nous faire devenir si nous sommes prêts à lui obéir. Parce qu'il nous veut acteurs de ses projets et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour les accomplir. Dans Jérémie 29, il est dit « J'ai formé des projets pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Alors, saurons-nous dire oui à Dieu? Un oui sans hésitation? Un oui confiant? Comme toutes ces personnes que nous avons rencontrées? Saurons-nous dire un oui audacieux à Dieu? Saurons-nous nous démarquer de cette société du non? Alors moi je vous invite à dire oui à l'inattendu de Dieu. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes tellement que tu veux nous associer à tout ce que tu fais. Et tu nous invites à aiguiser notre écoute, à entendre ce que tu veux de nous. Et Seigneur, nous voulons t'entendre et nous voulons te dire oui. Un oui confiant, un oui plein d'espérance, parce que nous savons que tu es un Dieu d'amour et que tout ce que tu nous demandes, c'est par amour que tu nous demandes. Et que tout ce soit gloire pour toi. Au nom de Jésus. Amen.